Ça, ça marche pas. Vas-y.
Merci pour l'introduction. Donc, je vais vite rapidement me représenter. Donc, j'ai cherché à l'heure actuelle un bachelor en relations internationales, comme j'ai dit. Avant ça, j'ai bossé plusieurs années dans l'industrie web. Et depuis pas mal de temps, j'ai remarqué bientôt la moitié de ma vie, en fait, je me suis intéressé à l'open source. Ça m'a fait approcher des problématiques comme la collaboration, le bien commun ou la participation, qui sont liées à la co-construction. Ça marche ? Yes. Ok. Donc, j'ai fait cette étude-là pour la fin de mon bachelor. Donc, c'est une motivation politique et objet technique. Décrypter la participation des développeurs au projet Bitcoin. Donc, c'est la première page du travail. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de pourquoi les gens participent à des projets finalement. Plus largement, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, ici, beaucoup de personnes ici, c'est le rapport en fait entre la technique, la technologie et la société. Mais ce soir, je vais apporter peut-être une approche un peu plus en sciences politiques, et en particulier en relations internationales, qui est une sous-branche de la science politique. Alors, les relations internationales, en deux mots, historiquement, ça s'est intéressé au rapport entre les États. Vous voyez les États un peu comme des bulles de verre, et vous voyez comme des acteurs vraiment autonomes, et en particulier sur l'objet de la guerre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, ça s'intéresse à beaucoup. À différents types d'acteurs, il y a différentes branches, etc. Avec des acteurs de nature très différente, donc ça peut être des ONG, des individus, etc. Des services publics locaux, des villes. Et je me suis appuyé principalement sur ce qu'on appelle la théorie constructiviste. Cette théorie, elle est développée par Venn dans les années 50. Aujourd'hui, elle a beaucoup de branches aussi. Mais je dirais que si je la résume en quelques mots, elle part du principe que les caractéristiques des relations internationales, ça viendrait plutôt d'une construction sociale et historique et pas de la nature humaine, par exemple, ou de choses intrinsèques au système. Donc, on voit vraiment la structure internationale comme une structure sociale. Et cette structure, qui est donc une structure sociale, elle influence les agents, elle influence les décisions, elle influence les relations internationales. Quand je parle d'agents, là, justement, dans cette perspective, c'est vraiment assez large, ça peut être des ONG par exemple, mais aussi des mouvements sociaux, par exemple aux droits des femmes, ou Bitcoin. Où elle est très intéressante pour mon travail, c'est qu'elle permet une perméabilité entre différents niveaux, en partant vraiment d'un individu et une sorte de diffusion des idées qui modifie finalement cette structure. Un peu le point de départ de ma recherche, donc il l'a un peu évoqué, c'était finalement, la première question que je me suis posée, c'est comment les mouvements à la marge, ils proposent des services dans un but politique. Donc déjà, il y a quelques a priori. Donc cette photo, par exemple, c'est pendant le putsch en URSS, putsch en URSS en 91, elle a été prise à la volée, on le voit dans le cadrage. C'est prise par un étudiant, elle a été scannée et envoyée par Internet à CNN. À l'époque, la radio, les chaînes de télé, tout ça, ils ont été bloqués pendant le putsch, évidemment. Mais Internet est passé complètement en dessous du radar. C'était le FAI, le fournisseur d'accès Internet d'Esmos. C'était une petite entreprise inconnue. Internet fonctionnait 15 minutes par heure, je crois.
C'est quelle année, ça ?
91.
Donc ça devait être peut-être un scientifique ou quelqu'un dans une université, parce que 91, les gens qui avaient Internet, même...
En URSS, ça commençait justement à démocratiser. Alors démocratiser, ça reste quand même des gens gazés, mais qui ont peut-être des intérêts des fois surprenants. Hein. C'est pas forcément des ingénieurs en informatique, c'est des physiciens. Mais c'est vrai qu'il y a un peu des universitaires souvent, mais il y avait aussi un peu des jeunes qui voulaient par exemple accéder aux informations sur Usenet, échanger avec des gens aux États-Unis. On peut penser à un autre service, Sci-Hub, on a un peu une discussion tout autour de l'académie, donc ça permet d'accéder gratuitement, en toute illégalité, à des documents, des recherches, en En fait, toutes les recherches, vous devez payer normalement 100 francs ou être dans un réseau d'équipes universitaires. Là, vous mettez l'URL ou DOI, qui est l'ISBN pour les recherches, et vous la téléchargez. Donc, imaginez l'impact, pour, par exemple, en termes d'échange nord-sud, donc c'est pas vraiment l'échange, si on veut dire que c'est du vol, hein, mais en termes d'échange nord-sud, en termes de propriété intellectuelle et de savoir. Il y en a d'autres, hein, on peut penser à Wikipédia, à GNU Linux. Okay. Je donne un logiciel libre parce que je pense que les gens ne peuvent que être libres s'ils utilisent un software libre. C'est un peu ce voyez l'idée. Mais avec justement cet exemple hein, de l'URSS, j'ai commencé à me poser des questions sur les motivations des acteurs parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'instabilité qu'on trouve en 91, on la retrouve par exemple en 94. Enfin, c'est assez instable l'URSS pendant pas mal de temps. Et l'ex-URSS assez vite à la chute. Et en fait, ils réagissent plus après. Ils réagissent plus, alors il y a voilà, sur cet exemple historique, il y a peut-être des raisons, ils sont peut-être moins en danger, eux, en tant que communauté. Mais voilà, ça m'a aussi dit, en fait, pourquoi les gens ils créent un service finalement? Pourquoi ils participent? Je suis arrivé à cette question. Est-ce que des motivations politiques sont à l'origine de la participation des développeurs à l'élaboration du code source du logiciel Bitcoin? Pourquoi j'ai pris Bitcoin? Alors j'aurais pu prendre un autre. Hein. Il y a pas mal de gens qui connaissent quand même pas mal Bitcoin. Alors, moi, c'est un case study. Ça pourrait être un autre. Ce que je recherche, c'est des patterns. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres recherches sur Bitcoin, sur d'autres choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelle motivation. Alors moi, je suis parti du principe. Un peu, mon intuition, c'était qu'il y a des motivations politiques. Qui, hein. Finalement, voilà. Qu'est-ce qui les pousse à participer? Alors, donc la littérature actuelle, elle a été assez faible. Peut-être qu'il y a des coups que je n'ai pas trouvé, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est assez faible. C'est particulièrement en ethnologie. Il y a Fletcher, qui va, par exemple, qui a fait sa thèse, qui fait une thèse et qui va en fait, interroger des gens. Les utilisateurs de Bitcoin, donc attention, hein, c'est pas des développeurs, on a beaucoup dépensé de temps là. Puis, en les questionnant, il dit ouais, en fait, utiliser Bitcoin, ça peut être vu comme une critique des infrastructures centralisées bancaires. Sauf que quand on regarde son étude, je pense qu'elle est assez limitée parce qu'il m'a interrogé finalement que 7 personnes. voilà. Donc, je ne dis pas que les abstracts. Hein. C'est aussi pour mon étude, mais je ne dis pas que les abstracts. Il va interroger 7 personnes dans la même ville, dans le même truc qui s'appelle Beer et Bitcoin, je ne sais pas quoi, qui sont peut-être un club finalement d'assez peu de personnes. Il vérifie un peu à gauche à droite, mais pour moi, ça reste quand même très limité.
On pourrait faire Beer et tout d'ici maintenant, quoi.
Ouais, voilà. Bon, il passe beaucoup de temps par contre, mais donc il fait des questions assez longues, etc. Mais, voilà.
Mais est-ce qu'il y a, excuse-moi de t'interrompre, on a la suite de la question, mais...
Non, faut pas t'excuser, il faut interrompre.
Voilà.
Non, mais je pense qu'on va rappeler le sujet avant que tu termines. Il n'y a pas des sources qui ne sont pas académiques, mais qui sont pertinentes, par exemple des blogs où il y a des discussions. Parce que des fois, sur les blogs, dans la programmation en particulier, dans le monde online, il y a des discussions très élaborées. Ah, et ça peut avoir une valeur de savoir, quoi. Il y a des sondages, des fois, etc.
Ouais.
Des discussions motivées.
Sur le papier, il n'y a pas qui, eux, sont cryptographiquement signés par les clés privées des développeurs. Donc, ouais, ça, il y a des preuves que ouais. C'est...
Oui, non, je suis d'accord. La question, c'est de la littérature académique, là.
Ouais.
Après, les sources, justement, c'est pour ça que j'ai pris Bitcoin. Elles sont disponibles et il y en a pléthore.
Mais est-ce que tu as trouvé des discussions de ce genre?
Oui.
Ok, ouais. Est-ce que tu les mentionnes? Est-ce que tu
les as mentionnées, ouais. Okay.
En fait, vous êtes de connivence.
Il y a une autre personne, c'est. Ah ouais, je crois que j'ai une slide. Ouais. C'est Maddox qui va plus loin. Il s'appuie sur les que dit Fletcher, donc on voit bien aussi comment il y a la science. Hein. Un gars qui dit quelque chose, et l'autre répète. Puis lui, bah, voilà, on va plus loin, et puis gars, on peut voir ça comme une innovation socio-technique. Donc, et puis, qui serait comme une, voilà, comme une critique sociale des infrastructures voilà, centrées. Donc ma méthode que j'ai utilisée, avant tout, comme j'ai dit, elle est centrée sur l'hiver. Ça développeurs hein, et les développeurs de Bitcoin Core. Donc là, en gros, il y a tout un écosystème autour de Bitcoin, comme toute technologie. Mais je me suis vraiment concentré sur que ceux qui ont fait du code pour le core de Bitcoin.
Et ça représente combien de personnes environ
600. Ouais, c'est 600 personnes. C'est assez tiers du tout d'ailleurs. J'ai d'abord travaillé sur les mailing lists. Donc il y a même a été annoncé Bitcoin, c'est une mailing list. Je pense que la plupart de vous le savez. C'est la mailing list crypto. Là, ils relisent aussi, ils annoncent quelques mois plus tard, release la version alpha, ou comme on l'appelle 0.1, du code source et du logiciel. Donc, on voit aussi assez vite, ça c'est à peu près dans le 20e message, en réponse au message que vous venez de voir, donc quand il annonce.
Comment il fait ça?
Ah, il y a
peut-être juste dire qui c'est
Satoshi. Ouais, ça, ouais, pardon. Donc, Satoshi, c'est vraiment celui qui a fait Bitcoin. Où on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes, mais son identité n'est pas connue. Par contre, c'est deux fois le même message. Donc là, il annonce. C'est Satoshi, il annonce un paper, c'est un white paper. Vous pouvez télécharger, il fait 3-4 pages, on le retrouve encore. Il explique techniquement comment ça va fonctionner. Du coup, là, on est en octobre 31 2008. Et là, on est en janvier. Vous voyez, 2009, et là on peut télécharger le truc, quoi.
Donc en 2008, c'est un concept qui a passé à une version, ok.
C'est un concept et puis c'est un white paper, en fait, qui est très académique.
Ok, ouais.
C'est vraiment dans la pure.
Une des choses les plus denses que j'ai jamais vues.
Ouais, voilà. Ça.
Il fait que 3 pages.
Hein. 9 pages, je crois, quand même. Ouais. Mais que j'ai relu 20 fois et à chaque fois, je découvre des choses.
Ouais, voilà, c'est le conseil de la lecture, elle est assez accessible, en fait. Avoir certaines parties.
Je ne suis pas technicien du tout, je l'ai regardé vraiment avec un regard sociologique sans savoir si ce qu'ils disaient techniquement c'était juste. Et même au niveau de la structure du papier, juste, voilà, c'est très 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 haut niveau.
Ouais.
Et puis, alors, du coup, voilà, assez vite on tombe sur des choses politiques. La question là, un des utilisateurs qui répond, c'est ok, c'est cool ton système, mais c'est super polluant, ça va utiliser plein d'électricité, alors je ne vais pas revenir au débat tout de suite là.
C'était d'entrée tout de suite derrière, c'est sorti.
C'est assez sorti tout de suite. Alors après, les journaux, 10 jours après, ils découvrent le truc. Hein, bon. Mais c'est sorti tout de suite. Ah, on n'a pas besoin d'un système qui consomme autant d'électricité, c'est stupide. On ne peut pas avoir. Donc ça, typiquement, c'est un message extrêmement politique. Et du coup, moi, j'ai téléchargé l'entier des mailing lists, j'ai téléchargé la Bitcoin Dev, j'ai téléchargé celle-ci, puis j'ai fait des recherches un peu. J'ai regardé. On trouve effectivement beaucoup de messages du genre qui sont politiques. Mais on trouve aussi des messages qui disent « Ah, on pourrait utiliser Bitcoin pour arrêter le spam, pour faire en fait des micro-paiements qu'on envoie des mails ou utiliser Proof of Work. » Vous voyez ce que c'est Proof of Work? Qui sait que c'est qui voit qui sait ce que c'est Proof of Work? Ok, pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas. En gros, c'est on fait une preuve de travail de CPU. On fait tourner, on donne un calcul au CPU qui est compliqué. Et on fait comme un puzzle. Le CPU résout ça et ça lui prend du temps. Et du coup, une fois qu'on a résolu le puzzle, c'est facilement vérifiable dans l'autre sens que c'était bien la solution du puzzle. Et du coup, c'est une preuve qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait travailler le CPU. Donc, finalement, je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de trouver ce que je cherche? Comme dans Google, hein, vous pouvez taper n'importe quoi, vous allez trouver quelqu'un qui est d'accord avec vous. Et c'est, ça répond un peu à ta question aussi. Oui, il y a plein de sources, mais j'étais un peu là, ok, je vais trouver ce que je cherche, il n'y a pas de problème, j'ai quoi. Que Bitcoin, les développeurs de Bitcoin ont fait ça pour des raisons politiques. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer d'être plus simple et de retourner en fait vers un questionnaire. En fait, pourquoi pas leur demander aux développeurs pourquoi ils font ça. Il y avait le problème du coup de trouver qui c'était à ces gens. Donc j'ai essayé de. C'est sur GitHub, c'est une plateforme où on peut collaborer. Donc j'ai essayé de scraper GitHub et puis ça ne marche pas très bien parce que c'est assez compliqué de scraper GitHub. Utilise un programme pour lister tous les utilisateurs de GitHub qui ont codé, qui ont fait du code dans Bitcoin et récupérer leur adresse email en gros. Mais c'était nul. En fait, il suffit de faire ça. En fait, on peut cloner ce qu'on appelle le dépôt. Le dépôt, c'est quelque chose qui contient toute l'historique du code, donc toutes les modifications. Avec cette simple commande, on clone le dépôt en local, en fait. Ce dépôt, il contient non seulement tout l'historique, mais il contient aussi des métadonnées. Donc les métadonnées, chaque fois qu'on commit, donc ça veut dire qu'on modifie le code, on dit « Ok, j'ai fait une modification, c'est bon, je sauve, entre guillemets, et ça fait une nouvelle version. » Et ben, on va dire, on va mettre un petit message, pourquoi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait finalement. Mais aussi, on signe cette modification avec sa clé, et dans cette clé, il y a un pseudo ou un nom, et un email.
Oui, il y a un processus où il y a une validation, il y a une étape de validation par la communauté.
Ouais, ça rentre dans la question de Git.
Au niveau par rapport à Bitcoin, je parle de Bitcoin.
Ouais, en fait, pour nous, on peut après dire, ok, j'ai fait cette modification, mais pour qu'elle soit acceptée dans le dépôt de base central qui est défini socialement, comme le vrai dépôt, il faut que les gens aient ce qu'on appelle pour merge la modification, pour proposer une modification. Mais une fois qu'elles sont mergées, la signature, elle s'est mise pour coller à la
modification. Donc, le terme commit, ça correspond à quel état?
Oui, c'est distribué, un système Git. En fait, tu peux commiter en local, mais ça va laisser accepter automatiquement sur le code, le dépôt central. Commit en local, tu proposes la modification, enfin, tu la proposes, et puis après, elle est mergée dans le dépôt central. Bon. Donc, moi, ce que j'ai parlé, c'est le dépôt central. C'est les modifications que les développeurs ont effectivement pu modifier quelque chose dans le dépôt central. C'est clair? Cette commande, ben, du coup, ça donne ça. Donc là, j'ai le nombre, chaque personne, j'ai décrié hein, par le nombre de commits qu'ils ont fait, donc leur participation, leur niveau de participation. On voit hein, 5777 là. Et puis à côté, il y a son email. Où j'ai été très surpris, c'est que la plupart des emails, ils sont des vrais emails en fait. Et j'ai estimé, il y en a 600, j'ai estimé qu'il y a à peu près 10% de faux mails. Là, on en voit ça, c'est pas bon vraiment. ça aussi, ça c'est pas bon du coup, mais...
Dans une plaque, c'est ça.
Voilà. Donc, je suis parti là-dessus. Et j'ai envoyé un questionnaire qui comporte à peu près 40 questions aux 500, je sais plus où j'ai noté ça, enfin j'ai noté dans les trucs, aux près de 600 personnes, et j'ai eu 100 réponses, ça fait 18% de réponses, ça je le rappelle, 18% de réponses en tout, ce qui est pas mal. C'est pas mal.
Combien de personnes au final ont répondu?
100.
100,
100,
100. C'est énorme. C'est le plein de temps. Attends, 600, 18% de 600, c'est.
Ouais, parce qu'en fait, on a 540, parce qu'en fait, il y a des doublons, dans les gens ont changé de clé, genre de trucs. En fait, il y a 540, il y a 600 emails, et 540 personnes vraiment. Ça, c'est toujours en fait des chiffres approximatifs. Donc, okay. Par contre, le 10%, on en fait. On est plus ou moins là.
18% c'est considéré comme représentatif statistiquement.
D'accord. Donc là, habituellement, on fait des questionnaires, on part sur des populations, on a une population totale et puis on prend juste un petit segment. Hein. Donc on dit, on a interrogé, on veut savoir ce que pensent les jeunes voix. On a interrogé 1000 personnes. Voilà, puis ça sera représentatif sur le sens. Mais les biais, souvent, ils se trouvent ailleurs hein, déjà. Il y a plein de biais, on étudie la certaine, plein de biais. Mais si on a 1000 personnes, souvent c'est plus ou moins un. Là, c'est différent. J'ai pris l'entier de la population. Je suis pas sur. J'essaye pas d'intégrer sur quelques centaines de milliers de personnes. L'inter sur 600 personnes, en balance, on manque le pied. Par rapport à ça, il est un peu moins fort. Même si je suis pas sur 1000 personnes, ce serait impossible, il n'y a pas 1000 personnes.
En quelle langue était ton questionnaire?
En quelle langue? Anglais.
Juste anglais. T'as pas pensé au japonais, au chinois, au allemand?
Parce que j'ai des codes.
Il y a un biais possiblement là-dedans pour ta propre recherche.
Certainement, ouais. Il y en a d'autres. Hein. Je suis parti du principe que les gens savaient plus ou moins un anglais facile, et c'est vraiment assez. En tout cas, dans le mail. Hein. Et personne ne m'a répondu, je ne sais pas, mais j'aurais à ce moment-là, ok, je peux le traduire.
C'est tout ça, partie du truc qui n'a pas répondu.
Ça, c'est
aussi. Bon, c'est toujours n'importe plus représentatif que cette personne d'un cercle d'amis.
Certains meufs. Pendant qu'ils boivent une bière.
Ce qui constitue
cette personne, il a dû sortir dehors. Il dit, toi, qu'est-ce que t'en penses aussi?
Tout le monde.
Excuse-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont pas voulu répondre, enfin qui t'ont répondu, qui ne souhaitaient pas répondre ou...
Ah ouais, j'ai toujours aimé les mères. ouais, j'ai eu des trucs genre go fuck yourself. Mais j'ai aussi eu des trucs, ah, it's very nice you're doing that, I was talking about that. Donc c'est vraiment, j'ai eu plutôt des trucs vraiment sympas, en fait.
Soit ils n'ont pas répondu du tout,
soit ils n'ont pas fumé. J'ai aussi quelques, du coup, avec mon système de mail, je vais savoir quand les mails n'arrivent pas, etc. Je suis arrivé à peu près à 10%. Soit ils n'ont pas répondu, ouais. Soit ça arrive dans leur spam, soit... Voilà. Ça serait un problème, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse le truc. Avec peut-être d'autres moyens de contact, voilà.
Je pense que, ton premier biais, c'est effectivement la réponse. À mon avis, c'est possible que les gens qui répondent sont les gens qui sont d'accord avec ton qui s'intéressent à cette problématique, pas forcément qui sont d'accord, mais qui se sont posé la question, est-ce que c'est politique ou pas pour moi de participer à ce projet. Tu penses qu'il y a
cette biais sur ton mail. C'est quoi l'intitulé du mail? Comment ils ont cliqué? Sur quoi ils ont cliqué?
Voilà, ça c'est une très bonne question.
T'as pas le mail que t'as envoyé là?
Tu
l'as pas mis dans ta présentation. Non, mais te casse pas.
Non,
mais l'objet du mail.
L'objet,
quoi? C'est déjà l'objet, ouais. C'était quoi l'entrée en matière? C'est un sondage, vous avez gagné.
Non, non, je disais que. Mais je me rappelle exactement, c'est vrai. Donc, déjà, j'ai pas utilisé. Ouais, je m'en tape. J'ai pas utilisé un truc Google, hein, et ça, c'est typiquement un feedback qu'on m'a donné. Ah, c'est cool que vous n'utilisez pas un truc Google.
Oui, bah, c'est certain.
Partez du principe, c'était pour être des gens qui étaient sensibles à leur chose.
Oui.
Donc.
C'est assez logique.
Le mail d'accroche.
Ouais, mais il est dans la. Vous avez demandé. Si Internet en externe.
C'est une IG.
Ouais.
Une IG.
Ouais, c'est super.
Donc je vous ai conseillé d'utiliser l'Alexandre.
Ah, c'est nul.
C'est nul.
Bah, tu peux coder quelque chose, le faire meilleur.
Oui, c'est mieux Google.
Non, c'est mieux de faire un truc. Voilà. Alors, BigQuery entreprise serverless.
Ah, mais c'est neutre, on va dire.
J'ai essayé d'être au maximum neutre, mais aussi montrer que j'étais un peu délire. Ouais, c'est des. Mais j'ai. Voilà. Je disais d'où je chopais leur email, par exemple. Ouais, ce genre de petits détails qui font. Je pense à augmenter la tout ça. Je vais le mettre. Je reviens à la présentation. Alors, bon, la première chose que je voulais savoir, c'est un peu qui étaient ces gens. Alors, bon, déjà, c'est des hommes. Un point extrême. C'est non seulement des hommes, mais en plus c'est des Américains. Alors peut-être là il y a un biais blanc, c'est possible. Mais quand je regardais les IP des gens qui venaient sur le truc et qui répondaient pas, c'était la même chose. Par contre là c'est que les gens. Si c'est pas des Américains, c'est en tout cas des Occidentaux. Hein.
C'est des pourcentages, des nombres absolus ça.
C'est des nombres absolus. Tout, sauf si vous dites, c'est tous des nombres absolus. Il y avait un problème,
et que 4 Russes.
Ouais, ah, et puis, je leur ai demandé qu'ils répondent, et puis après j'ai checké, j'ai contrôlé avec les IP. Alors bon, ils peuvent utiliser un VPN, etc. Mais et du coup, ça matchait. Il y a pas beaucoup de gens qui m'ont menti sur d'où ils venaient.
Ah ouais, donc tu te fais quand même taper 100 contrôler. 100
100.
Ah oui, 100.
C'est pas ce qui
code. C'est pas ce qui.
Et puis aussi, quand par exemple on leur pose des questions sur ben justement la vie privée, enfin la vie privée ou la surveillance, on voit que c'est vraiment extrêmement fort les réponses. Quoi. C'est un peu sans surprise, je dirais. Hein, mais... Donc là, est-ce que le gouvernement il a le droit de checker vos mails un peu?
Pourquoi tu as posé cette question?
Parce que je voulais savoir, en fait, je voulais les cadrer. Enfin, je voulais pour savoir leur intention, je voulais savoir s'il y avait une homogénéité dans les valeurs. J'ai aussi pas mal de questions, il y a 40 questions là, donc, enfin, quelques-unes, mais j'ai pas mal de questions qui se croisent pour s'il y a quelque chose qui saute, quoi. Si d'un coup il y a quelque chose qui est incohérent, je dis oulala, parce que moi on part trop vite sur des conclusions. Hein.
Mais
Tu poses des questions sur le Bitcoin au début ou à la fin?
Je pose quasiment pas de questions sur le Bitcoin. Enfin, je pose des questions. Ouais. C'est tout sur l'engagement, sur les personnes qui vous êtes un peu, mais qui vous êtes. Est-ce que vous aimez ça? C'est des questions un peu standard en sociologie. Est-ce que vous êtes un homme? Ou si, je sais pas, est-ce que vous êtes contre l'avortement, pour l'avortement, des trucs comme ça, quoi. Donc là, on va le voir, ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est... habituellement, on dit est-ce que vous êtes de gauche ou est-ce que vous êtes de droite, hein. Alors, sciences politiques, on a des outils. On aime avoir plus de dimensions. Là, c'est vraiment le plus simple, c'est deux dimensions. Ça a été développé par... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
Kitchev. Merci.
Alors, je vais... c'est l'espace de Kitchev, ça a été développé pour étudier le populisme, mais aujourd'hui, c'est utilisé pour positionner les gens politiquement. Donc, sur un axe, on a côté autoritaire ou libertaire. Puis sur l'autre axe, on a la gauche économique, droite économique. Alors, gauche économique, je pense que c'est un peu c'est gauche économique et droite économique, c'est est-ce que vous aimez payer les impôts ou pas, quoi. Est-ce qu'on leur distribue l'argent, c'est ça. Donc, on voit que au niveau libertaire, ça c'est clair. Par contre, gauche-droite économique, c'est plus chaud. Comment j'ai fait ça? Donc, il y a à peu près 15 questions là derrière, et après on fait un peu des moyennes, des collages statistiques.
Donc, en fait, c'est des questions qu'on utilise habituellement pour positionner des gens sur ce type de...
Pourquoi j'ai utilisé des questions, c'est intéressant, des questions standards? C'est que ça permettrait une comparaison avec des surveys standards. Mais ça, c'est pas comme ça.
C'est quand même assez marrant, parce qu'il y a... comme ça, juste à venir l'estimation aussi, mais il y a quand même, dans la partie libertaire, plus on monte dans le libertaire, plus aussi on part sur la gauche économique. Ça, c'est très...
Ouais, j'ai me suis pas amusé à
dire. Ouais, c'était vrai.
Après, de nouveau, là, si je fais cette plus simple, il y a plus de gens sur la même position.
Ok, d'accord, ok. Voilà.
Voilà, ça revient un peu à la question, en fait. Il n'y a que 540 personnes, mais il n'y a que 19 personnes. Ça, c'est quelqu'un qui m'a fait la remarque dans le survey, dans les questions ouvertes. Il n'y a que 19 personnes, en fait plus de 100 communes. Puis on a 65 qui ont plus que 10, puis tout le reste, c'est vraiment rien. On voit qu'on est vraiment une population, je dirais, déjà assez homogène sur certaines questions, en tout cas. On a les États-Unis qui sont que des mecs, et en plus, finalement, même dans cette population, il y a très peu de gens.
T'as eu la réponse du gars qui a commité 5000 fois, ou non 1500 fois, je sais plus,
oui, je crois,
qui est en tête de 1500 fois. Lui, il a répondu.
Ouais, ouais, mais lui, je crois que pas, il a
ça vaut la peine d'aller faire un interview.
Surtout, t'as eu la réponse de Satoshi Nakamoto. Désolé avec lui.
Bon, ils ont identifié ces personnes.
Mais t'as pas eu la réponse de Satoshi. De 1 et 3 Satoshi, je sais plus quoi, on l'a mis dans la liste.
Elle a eu plusieurs dans la liste,
il me semble, je sais plus.
Il y a un autre commentaire qui est intéressant, je pense, maintenant, c'est... Parce que là, ça paraît un peu étrange, le résultat de données. En fait, c'est pas, il n'y a pas un choix entre un gouvernement ou l'autonomie, mais c'est plutôt que les structures, elles devraient aider à l'autonomie des gens. Il prend l'exemple de l'éducation, je trouve que c'est pas mal, que l'éducation, elle permet justement aux gens d'être autonomes, ou en tout cas de...
C'est à quelle question qu'il faut utiliser ça?
C'est en open.
Ah
non. Ouais. Okay. Donc j'ai mis plusieurs open dans plusieurs sections, en tout cas, pour cibler un peu. Quand on leur pose la question, est-ce que vous voulez, est-ce que c'est important d'avoir une monnaie ou un actif décentralisé? Bon, ils sont tous d'accord. Est-ce que la privacy, donc ce qui est bizarre parce que Bitcoin c'est un privé, ça protège pas vraiment l'anonymité. Est-ce que c'est une importante fonctionnalité de cryptocurrency? Voilà, à nouveau, c'est clair. Par contre, c'est là où ça revient à la côte que j'ai cité, c'est ok, est-ce que les cryptocurrency, est-ce qu'ils font que les banques centrales deviennent obsolètes? C'est déjà vachement plus mitigé, quoi.
C'est marrant que ça peut, on peut aussi faire le lien justement avec le spread que tu avais à la base aussi sur gauche économique, droite économique.
Exact.
Ouais. Bon, et puis il y a une chose entre un constat et une intention.
selon la manière dont tu as posé la question, c'est je sens que ça va remettre le système formulaire en question, ou j'espère, et c'est pas tout à fait la même.
Il y a d'autres questions hein, où je leur demande leur enfin, justement, dans l'ensemble qui se recoupe avec la COVID, il y en a d'autres, etc. Ils ont. Alors il y a des gens qui veulent voilà, supprimer les infrastructures, les remplacer. Mais il y a d'autres, non. Et c'est plutôt. Alors comme je le sens, il y a pas à creuser, mais moi je dirais plutôt que c'est plutôt non dans la masse. Mais en tout cas, c'est pas homogène dans ces questions, ça c'est sûr.
Et j'ai encore les réponses après, enfin, on est d'accord. Là, à chaque fois, c'est absolument dans les chiffres bruts des réponses que tu as eues. Tu n'as pas voulu, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu une idée, par exemple, de faire varier ça selon le coefficient de commit que tu avais fait.
Est-ce que tu as publié tes données pour d'autres personnes? Non, mais publie tes données sur GitHub.
Ouais, je sais pas si elles sont
ouvertes. Pas leurs emails, je vois de quoi.
Ouais. C'était anonyme le questionnaire?
Hein?
Le questionnaire était anonyme?
Ouais, j'ai publié les réponses. Mais je peux les rematcher. D'accord. C'est anonyme et rematchable. Quelque part. J'ai oublié quelque chose. Voilà, je dirais qu'il y a un soutien à l'indépendance et à la responsabilité individuelle, mais sans supprimer les filets sociaux, quoi. Je pense un peu, un peu l'idée. Du coup, c'est vraiment l'idée d'avoir les structures sociales qui soient émancipatrices. Donc au niveau des facteurs, donc ça c'est un peu vraiment le corps, hein, je vais vous présenter la population, le corps de ma recherche. Alors, et ça c'est vraiment la surprise pour moi. Est-ce que vous avez été... Est-ce que pour les questions politiques, pour l'aspect politique de Bitcoin, que vous êtes impliqué dans le projet? Ben, ouais, on voit ça, si on compte en tirer des conclusions, que c'est bon, je crois. Donc là, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ouais, il ne se passe rien.
Quand même.
Ouais.
C'est une courbe.
Ouais, sur la population,
c'est pas si
difficile. Moi, je ne peux rien dire.
Ah, ok.
Et là, est-ce que tu aurais les moyens de savoir si parmi ceux qui ont justement beaucoup contribué ou beaucoup de commits?
Ouais.
Sont plutôt du côté, on va dire que ce eux sont plutôt du côté strong et green, mais comme ils sont tombés dans une masse qui est moins.
Ça sera intéressant.
C'est
de
la faire. La date, et quand est-ce qu'ils ont adhéré au projet, en fait, quand est-ce qu'ils ont commencé le projet
là aussi, c'est homogène en fait, ils adhèrent pour moi tous en même temps. Il y a des exceptions, hein, mais c'est vraiment assez. Tout le monde a fait en gros quelques années là-dedans. Hein, tu vois. Là, c'est marrant. Quelques années dans Bitcoin, ils continuent maintenant, mais c'est dans. Voilà, en 2010, ils démarrent tous, quoi.
Et du coup, tous, enfin, la majorité aussi, ils ont arrêté au bout d'un moment?
Non, ils continuent la plupart. La plupart, pas mal, c'est devenu leur job aussi. C'est pour ça qu'ils continuent, ou ils suivent le truc de loin. Un peu. Je ne veux pas dire qu'ils forcément continuent vraiment activement. En tout cas, ils sont toujours un peu dans le truc. Il y a certaines personnes, par contre, qui m'ont dit, ouais, je suis sorti parce que c'était devenu toxique. Et ça, par contre, statistiquement, c'est assez chaud. Est-ce que vous êtes impliqué dans Bitcoin pour son aspect technique? Et pour moi, c'est vraiment le truc à retenir, c'est oui, quoi.
Mais moi, ça m'interpelle pas du tout. J'avais eu la chance de discuter avec pas mal de gens d'Ethereum. Alors, c'est un tout petit échantillon, il y avait peut-être 5-6 personnes, mais ils étaient tous là-dessus, hein. C'est des aspects techniques qui les motivaient, ce qui n'empêchait pas d'avoir une vision de changer le monde avec leur technologie. Mais c'est la technologie qui les drive, clairement.
Voilà. Et je pense que pour les gens qui veulent. Ok, c'est encore la conclusion, mais je vais aussi la sortir maintenant. C'est. Ok, pourquoi on fait des choses? C'est peut-être des fois vraiment par intérêt, mais pas par intérêt financier, par intérêt, quoi. Moi, je pense que ça ne se limite pas forcément. Là, c'est la technique, c'est les techniciens hein, qui sont a priori intéressés par la technique.
Tu as aussi trouvé ça sur GitHub, sur une plateforme qui est assez technique, et de plus, personne n'était payé pour le faire. Donc, si ce n'est pas des gens passionnés de la technologie qui sont là, qu'est-ce qu'ils font là, quoi?
Personne n'était payé pour le faire, je ne suis pas d'accord.
Oui, mais de base, les commits qui sont là sont libre source, et c'est pas que tu n'es pas payé par commits pour dire.
Il y en a dans ce travail au quotidien.
Oui, c'est le travail au quotidien, mais ils sont pas payés par Bitcoin.
Mais ça n'était pas encore en 2010 quoi, ils ont annoncé, non?
Parce qu'il n'y a pas d'organisation en Bitcoin. Donc, ils ne peuvent pas être payés par l'organisation
en
Bitcoin.
En revanche, quand il fait les commits, toi tu sais quand il fait les commits, c'est Emmanuel, le développeur, non? Donc toi, tu as des commits, c'est qui est ton superviseur pour voir si tu as fait des commits ou pas.
Oui.
Donc je dis juste en revanche que vis-à-vis de ça, techniquement parlant.
Mais il n'est pas payé par commit. Ça se voit. C'est bien. Ça se fait pas comme ça.
Bon, là, ce que je veux dire, c'est que c'est en 2010. Est-ce qu'il y avait déjà.
Non, non, mais là, c'est pas que c'est jusqu'à maintenant.
Hein. Ouais, c'est
non, mais l'engagement.
De toute façon, les développeurs Bitcoin, ils sont généralement dans plusieurs projets. Et le fait d'être développeurs Bitcoin leur donne une aura qui fait qu'ils vont être bien payés ailleurs. Et ça ne les empêche pas de continuer à être développeurs Bitcoin.
Mais ils n'ont pas l'aspect financier, j'ai posé comme question.
Ma remarque, c'est qu'ils se sont, comme il nous a dit, ils se sont impliqués la plupart au début, et au début, il n'y avait pas cette aura, justement. Voilà.
Juste.
Ou peut-être c'était perçu comme il y avait une aura, mais je ne sais pas l'impression que j'ai.
Là aussi, je voulais juste mettre ça, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé de problème, parce que on fait ça, on a le critical aspect, j'ai ça sur l'idéologie, puis comme avec les pôles, je vais montrer, hein, ça prend ça. Car mon explication, c'est justement que, comme tu dis, on peut travailler dans quelque chose pour intérêt technique, mais ça ne doit pas aller à l'encontre de son idéologie.
Ouais, je pense qu'il y a quand même des doutes.
Voilà. Mais après,
techniquement. C'est quand même différent, ça, c'est ça.
Mais je voulais juste dire, technique, ça peut aussi recouvrir vachement de choses. Enfin, par intérêt technique,
par la technologie.
Mais si on part, enfin, si, moi je partage aussi le postulat qui est émis, ou peut-être aussi tu viens de le dire, je vais aussi plus accès, mais que justement, ben, la structure a une influence énorme sur la façon dont on peut l'utiliser, ce qu'elle permet.
Mais là, tu vois ce qu'on a simplement.
Non, mais voilà, c'est à peine, mais juste pour dire que justement, selon les personnes, on pourra juste très différentes derrière ce que ça veut dire
techniquement. C'est confirmé.
Les mêmes choses derrière idéologie et politique. Ouais, c'est toute la difficulté quand tu as des questions qui sont aussi arides que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on met individuellement derrière une idéologie,
ça peut c'est pour ça que le questionnaire, il est construit avec des checks. Hein. Donc, s'il y avait eu un problème, vous auriez porté des problèmes. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal regardé les questions ouvertes. J'ai aussi comparé après avec ce qu'ils disaient. Enfin, évidemment, on ne peut pas juste s'arrêter à. Ça c'est une goutte assez longue. Donc, il le dit quoi. Et ce qui est vraiment important, il dit, j'ai joint pour les questions techniques. Mais technique, la technologie, c'est intéressant, c'est un problème extrêmement compliqué. C'est vrai que le problème qui est résolu par Bitcoin, c'est un problème en informatique compliqué, qui était posé depuis longtemps. Et pas seulement pour les crypto-monnaies, mais pour avoir un système décentralisé de base de données non modifiable. C'est aussi intéressant, c'est qu'il trouve que les systèmes financiers, en particulier les systèmes internationaux, ils sont juste pas efficaces. Et, je pense que vous avez tous, en tant qu'utilisateur de carte de crédit à l'étranger, pu le constater. Et ce qui est marrant, c'est aussi ce projet, après, il amène à réfléchir sur des questions plus larges. Donc, tiens pour la question technique. Mais après, il se dit, ok, mais en fait, c'est quoi ce système financier? C'est quoi Et il s'intéresse peut-être à des projets, des problèmes d'économie. Et il voit, que par exemple, pour les pays où le gouvernement est instable, avoir une alternative à la monnaie du gouvernement pourrait être intéressant. Voilà, puis de nouveau, hein, c'est pas la destruction de l'État, hein. C'est la destruction, séparer l'État et l'argent. Et c'est ce qu'on fait chez nous, on a une banque centrale qui est séparée de l'État, en cas, c'est pas mal de murs de séparation.
Je pense, pardon, que ça, j'aurais dû parler avant, la décentralisation, c'est pas seulement un aspect technique, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont une valeur, qui ont des valeurs, qui aiment bien les systèmes décentralisés, ça les amuse techniquement, on dit, mais explicitement, ce qu'ils disent, c'est que ça les amuse techniquement de les programmer, mais il y a une idéologie derrière la décentralisation.
Je pense que c'est beaucoup plus profond. C'était impossible techniquement.
Ouais, impossible.
Okay. Techniquement impossible.
Okay.
Et tout d'un coup, il y a un saut énorme et ça devient techniquement possible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont affolés. Moi, juste expérience personnelle, quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai détesté, ça m'a fait hérisser le poil. La rareté numérique, horrible chose. Et c'est par la technologie que j'ai commencé, parce qu'il y a, des trucs qui buguent. Il y a des choses qui sont impossibles et tout d'un coup, ils sont possibles. Et je pense que c'est comme ça que la plupart des gens sont rentrés là-dedans en étant ultra critiques de, ce que c'est, de ce que ça permet. Mais en fait, c'est là. Et on ne peut pas le désinventer, c'est là. Donc,
mais plein de choses sont impossibles, sont difficiles. Pourquoi c'est un objectif, je veux dire.
C'est pas un objectif, c'est... Ouais, c'est un problème mathématique posé en plus, et que connu le public avec pas de solution. Et d'un coup, ah, j'ai une solution. Et quand on ramène une liste, c'est ouais, non, cette solution ne marche pas.
Tout le monde a rigolé, et puis tout d'un coup, ah, non, ça marche.
Intellectuellement, c'est très facteur.
Byzantine General.
Ah oui.
Mais oui, parce qu'Internet, c'est le partage, tout peut être dupliqué.
Pour moi,
là, c'est l'inverse.
De rareté numérique artificielle qui est.
Juste par rapport au système décentralisé, il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est un système décentralisé de base.
C'est vrai qu'il n'est pas
décentralisé. On a un peu l'affaire en nous. Comme conclusion, bon, je pense que il faut quand même mettre en avant que l'Internet technique, c'est, je dirais, le point qui explique le mieux pourquoi les gens s'impliquent dans le projet, en fait, comment se faire implication dans le projet. Là, c'est un point que j'ai amené aussi, c'est ok, c'est les techniciens et ils ont une réponse technique et c'est assez logique. Ça veut pas dire que voilà, si le paiement international il est efficace, ben je vais le fixer quoi, je vais essayer de créer un truc qui fonctionne. Puis je veux pas dire là que les techniciens, ça serait leur, ils s'imiteraient à des réponses techniques ou des réponses technologiques. Mais en fait, c'est leur compétence. Ils ont la compétence qui leur permet d'apporter des réponses techniques. Et il faut vraiment, moi je pense qu'il y a une limite à ne pas réduire le technicien à, des réponses techniques. Mais ils ont un outil extrêmement puissant qui leur permet de le faire. L'homogénéité socioculturelle, c'est pas forcément surprenant vu, c'est des gens qui viennent du même milieu professionnel. Donc, il y a souvent des homogénéités dans les milieux professionnels. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est quand même la provenance des gens. Je pense que ça intéresse sur l'aspect global du projet qui est souvent présenté comme un projet d'Internet global. Et puis ça renvoie, je pense, aux questions beaucoup plus larges. Sur la place d'Internet, par exemple, en tant que vecteur de puissance américaine sous un angle de diplomatie culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est plus long pour rechercher en relation internationale. Donc on retombe sur les RI, les relations internationales et la diplomatie. Mais voilà, là aussi, ils ont donné un service au monde. Internet, c'est un service. Et ce service, il sert un peu la liberté, la globalité, tout ça, mais quand on regarde après, qui c'est qui contrôle, qui c'est qui définit les règles, etc. On parle beaucoup des GAFA, mais là, on a un autre exemple qui paraît open source, etc. Et puis en fait, on retombe sur les mêmes choses.
Mais est-ce que c'est intentionnel? C'est une autre question.
Ah ouais, alors,
tu parlais de la construction du système socioculturel.
Alors là, au niveau du contrôle d'Internet par les États-Unis pendant longtemps, c'est clairement
international.
Aussi à l'ONU, il y a des rapports par exemple qui montrent. Ah oui, en 99, comme ça, 1999. Ah oui, Internet, ça va vraiment résoudre le problème en Russie de jour. C'est un vecteur de démocratie, etc. Comme du coup, avec Twitter dans les printemps arabes, c'est toujours la même histoire qui tourne comme ça. Cette idée que voilà. Il y a un système, et puis ça va amener la démocratie. Mais déjà, il faut savoir cette idée. Il faut déjà, ok, est-ce que vraiment ces pays veulent une démocratie? Enfin, ça, c'est déjà très directeur. C'est typiquement la diplomatie culturelle, je pense. Sauf pour.
Mais ouais. La question que tu as posée aussi, elle faisait référence. Enfin, moi, je l'avais vu, j'avais compris, je ne sais pas si c'était comme ça que tu l'avais mentionné, mais est-ce que tu parlais des devs là à ce moment-là, quand tu disais est-ce que c'était conscient que.
Non, c'est plus par rapport à sa dernière remarque sur le poids d'Internet au niveau de la planète.
Voilà. Ça contraste avec la déclaration d'indépendance du cyberespace. D'ailleurs, plus tardivement, il y a un film d'un réalisateur un peu fou, pas un peu fou, mais un film un peu.
Kiefer
normalisation, ça, Titanic, vous pouvez voir.
Ça a une longueur de 4 heures, donc si jamais. Prenez les deux par temps.
Moi j'ai vu 2h40.
Hyper normalisation.
Adam
Curtis. Hyper normalisation.
Hyper normalisation.
Ça vaut la peine?
Oui, ça vaut la peine.
Toute la série de lui.
Vous pouvez commencer à n'importe quel moment. C'est vraiment décousu, mais j'aime bien parce qu'il y a du contenu intéressant.
Et vous pouvez le regarder en plusieurs fois. C'est pas
hyper normalisation.
On se fait 20 minutes.
Vous pouvez voir gratuitement sur.
Même plusieurs fois.
Pas sur, pas sur le site de la BBC, mais sur Vimeo, YouTube, ouais. Vimeo. Et puis il parle de, il contraste le moment historique où tu as ce mouvement qui parle d'indépendance, et puis ensuite, je sais plus après.
C'est beaucoup plus large, mais en tout cas, ça fait ce point-là. Ça.
Oui, c'est plus large, je parle de cette section du film. Ouais.
Pour finir, donc voilà, j'aimerais juste voilà, une motivation politique, je pense qu'elle ne prime pas, et en tout cas, elle ne suffit pas à expliquer l'engagement des développeurs. Elle permet peut-être à expliquer l'engagement des utilisateurs. Donc, je les sépare beaucoup, c'est peut-être une séparation un peu trop forte, mais.
Les premiers.
Surtout pas oublier que, en fait, l'objet technique précède l'utilisation, toujours. Le service précède l'utilisation. Donc, pour moi, c'est important de comprendre ces mécanismes, parce qu'on le voit, les liens, on le sent dans la salle, on se dit, donc c'est important de comprendre. Enfin, je disais, il y a peut-être des questions qu'il n'y a pas besoin de poser dans Bitcoin. Effectivement, peut-être que cette question n'est pas si intéressante dans Bitcoin, mais je pense qu'elle est très importante aujourd'hui pour nos démocraties, pour le système.
Bon, moi, je le disais surtout par rapport à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal.
Oui,
c'est là. Et il faut apprendre à vivre avec. C'est surtout sur cet aspect-là. Et c'est ça qui m'avait pris le plus de temps au début, c'est que, OK, il faut se faire violence, il faut apprendre que ça ne sera pas comme avant. Et comprendre le quoi, comment, après essayer de construire là-dessus ce que tu veux construire, pas ta vision. Mais la technologie, elle est là.
Ça, c'est clair. Aussi,
peut-être juste pour compléter, pour revenir à la discussion que j'avais eue avec des développeurs et d'autres personnes qui, si tu te rappelles, il y a eu un hackathon à Battelle avec le corps des développeurs d'Ethereum, Vitalik qui était là, il y avait d'autres personnes, et en discutant avec eux, c'est clairement les motivations, alors c'est un petit échantillon nouveau, mais c'est des motivations techniques qui guidaient les développeurs, mais il n'y a pas que les développeurs, autour de ces développeurs, il y a des gens qui portaient une intention et les développeurs s'y retrouvaient. Et je pense que c'est un peu dual, puis c'est peut-être ce qu'on retrouve derrière l'idéologie. Je pense que c'est une motivation technologique qui les pousse, parce que ouais, c'est des défis intellectuels, etc. Mais après, il y a tous les gens qui gravitent autour, et ce n'est plus des développeurs, ce n'est pas forcément des utilisateurs, mais c'est des gens qui donnent une intention, qui donnent un sens, qui ça a aussi de la valeur, peut-être. Mais ça ne paraît pas forcément en question.
Ouais, je veux dire, à quel moment la facilitation technique ne prend pas le pas sur la responsabilité sociétale? C'est la question que tu te poses, en fait. Est-ce que tu me réponds?
Bah, peut-être que, justement, si on la laisse tout seul, ça peut amener des dérives.
Pour parler d'expérience personnelle, moi, je me suis intéressé à ça parce que je voulais parier dessus pour gagner de l'argent. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça m'intéressait un peu, mais je voulais laisser. Après, je me suis galé, je vais m'intéresser à ça, ça va être cool. En plus, il y a le côté argent, et puis c'est clairement, enfin, dans la population générale, c'est ça qui s'est passé. Je parle pas des développeurs. Là. Donc, le côté technique m'intéresse encore aujourd'hui, mais l'investissement, je le mettrai moins. Donc, je pense que c'est possible que même pour des personnes qui sont orientées techniquement, qui sont soi-disant purs dans leurs intentions, il y a quand même une influence, peut-être même inconsciente, quoi, de ta communauté autour qui les encourage. Ouais,
as-tu terminé ta conversation?
J'ai encore deux phrases.
Voilà. Et après, j'ai une question que tu peux répondre à la fin de tes deux phrases, c'est outliers. Est-ce que tu as ciblé certains des gens qui vraiment sortaient de ton modèle et qu'est-ce que c'était leur réponse?
Pour finir, du coup, par contre, ce qui est clair, c'est que les logiciels, ils ont des implications et que les développeurs, ils en sont conscients, et que ces implications doivent être, à mon avis, en phase, autrement, ils ne vont pas leur citer. Oui, ok, ils vont quitter le truc, ce qui arrive aussi avec Bitcoin, il y a quand même pas mal de gens qui quittent. En conclusion, je dirais, il y a aussi toute cette approche un peu cybernétique, du siècle passé, qu'on retrouve vraiment avec le system thinking et tout ça, qui sont des approches de voir le monde comme un système technique, où les solutions techniques, elles seraient porteuses du changement de vie. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire attention, c'est... Moi, je ne crois pas qu'on résout les injustices en résolvant un problème technique. Parce que, par exemple, hier, Bitcoin, c'était la lutte contre l'inflation. Okay. Aujourd'hui, il y a par exemple la Russie, l'Iran et Venezuela qui veulent l'utiliser pour bypasser les sanctions américaines. Donc, on voit bien qu'il y a une ambivalence dans cette approche, hein. Mais ça ne veut pas dire que les outils sont pas inutiles. Il y a vraiment un truc, à, peut-être quelque chose à trouver. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de, que la science politique, par exemple, les sciences humaines, s'intéressent un petit peu plus aux effets de la technologie, parce que je sais déjà que les techniciens, en fait, s'intéressent déjà pas tout le monde.
Merci.
Juste une remarque. Tu dis qu'on ne résout pas un problème social par la technique. Pour moi, je pense que si on peut préciser cette idée, oui, mais le problème. Pardon ? On ne résout pas un problème social par, par la technique. Je pense qu'un problème technique peut faire disparaître quelque part un problème. Enfin,
il y a une phrase,
pour le sens du problème social inapportant. Quoi.
Ouais, je pense qu'en fait, chaque technologie apporte des nouveaux problèmes. En fait. Et du coup, il y a un truc dans lequel tu dois aller plus vite dans la résolution des problèmes avec la technique que l'apparition de nouveaux problèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas plus vite que ça voudrait avec la technique. Il y a un peu qu'est-ce qu'on pioche, qu'est-ce qu'on fait en premier niveau. Après, comme tu dis, les choses, elles sont là. Du coup, comme on les encadre. Le coin, il n'est pas tout seul. Il reste la loi, le pays, etc. Et quand même,
je pense qu'il est intéressant justement avec Bitcoin, c'est que ça arrive d'une façon à maintenir un équilibre entre des acteurs qui sont là que pour leurs intérêts à eux. Il y en a très peu qui sont là pour les autres. La plupart, la Russie, le Venezuela là-dedans, tous ceux qui silencent la Suisse avec la crypto-nation, c'est pas gratuit parce que ça rapporte de l'argent. Donc tout le monde y va de ses intérêts. Et je trouve que justement ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'elle utilise le fait qu'on est en désaccord pour nous amener vers une seule réalité de ce cahier des transactions partagées qui est une réalité partagée et qu'on y arrive uniquement parce qu'on est en désaccord, uniquement parce que c'est très difficile de nous mettre tous d'accord en coalition derrière une seule version de cette chaîne.
Ouais, mais il faudrait quand même pas voir que, okay, si, imaginons, c'est utilisé pour taxer les gens. Bon, il y a certains autres systèmes qui marchent plus dedans. Oui. Mais si ça devient massif pour les gens qui gagnent, pas des millions. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, les États ne vont pas laisser passer. Quoi.
Ah, mais oui, ben, ça, c'est ce que j'aime dans Bitcoin, c'est que tout ce qu'on lui reproche, c'est qu'il permet aux pauvres de faire la même chose que les riches.
Ouais.
C'est exactement ça, la même chose dans l'arbitrage de régulation, tout ça. Donc Nestlé, il n'y a aucun problème quand ils ferment des locaux là et puis ils vont là où ils sont moins imposés, mais quand un humain le fait, tout d'un coup c'est un criminel. Et c'est pour ça que j'aime Bitcoin, c'est qu'il remet un peu. Il redonne ses possibilités en fait à tout le monde.
Tu parlais d'autonomiser les gens, c'est ça.
Le résilient au gouvernement, parce que si tu as une pensée ou une orientation sexuelle ou politique différente, bah, des comptes bancaires, tu oublies. Le droit de voyager, tu oublies. Tu vas en taule, en prison. Et comment les gens vont savoir que tu es. Par exemple, tu envoies un message d'un pays, tout va bien, t'inquiète pas, je suis sur la plage. En effet, tu es dans une prison quelque part, autrement mouillé. Mais la seule façon les gens pouvaient savoir, c'est avec une signature cryptographique, par exemple. C'est la meilleure solution qu'on a pour vérifier une donnée qui n'est pas directement de la bouche de quelqu'un.
Ouais, mais avec un pistolet sur la
tempe.
Ouais, voilà.
Moi,
je donne la clé.
Ouais, vraiment. Là, on parle de failles de sécurité de base, tu vois. Ouais. Même tes clés de ta maison, ça s'appelle la meilleure sécurité, mais si j'arrive avec une flingue à visage,
c'est ça que je
veux
dire.
Oui,
c'est pour ça que la sociotechnique, elle suffit pas à elle-même. Aussi une volonté.
C'est peut-être parce qu'une solution technique n'est pas forcément accessible. Elle est plus accessible sur des critères socio-économiques, mais elle est accessible sur d'autres critères qui peuvent aussi regrouper les critères socio-économiques.
Je pense que par palier, le but c'était d'attirer un premier groupe de cœur développeurs. On ne cherchait même pas à avoir des utilisateurs au début. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, même le pouvoir, qui a le pouvoir de vote dans Bitcoin, on dit que c'est les mineurs, mais c'est pas complètement juste. Au début, c'était le mineur qui était le développeur et l'utilisateur à la fois, c'était le tout en un. Et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à se splitter, il y a des jeux de pouvoir qui se sont redistribués. Ils se redistribuent à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'acteur qui rentre. Dès qu'on introduit les interfaces de paiement dans les magasins, hop, il y a un nouvel acteur, c'est les marchands. Ça n'existait pas avant, ils n'avaient pas de possibilité de voter, de faire voter leurs utilisateurs. Donc ça, c'est un système dans lequel ça se redistribue.
Et après les marchés comme Binance, tout ça, qui devient des acteurs.
Ouais, ouais.
Tu as quelque chose sur les profils professionnels et les entretiens?
Vu que c'est des Américains qui savent coder.
Il y avait des adresses de fac, par exemple. Hein? Il y avait des adresses qui étaient point ici, UK, autre chose, donc des adresses qui sont académiques, non?
Ouais, il y a de l'académie, mais...
Si tu as croisé les noms, si tu
as... J'ai pas creusé le fil, mais ouais, je pense intéressant de faire. Ouais.
Parce que ça restait encore en cryptographie, c'était encore sous embargo d'export, dans ça venait juste d'être libéré.
Ah, donc ça,
c'est déjà libéré.
Ouais, mais assez récemment, et la recherche américaine était le point la plus avancée sur ce sujet.
Ouais, clairement, c'est un truc qui va intéresser les facs et les chercheurs, donc...
Ce serait pas possible que les gens qui ont contribué sont moins américains que ceux qui t'ont répondu. Peut-être qu'ils sont capables de contribuer, mais ils voulaient pas répondre à un en anglais. La décision des noms anglophones pour c'est pas une réestimation.
Il y a une narration qui veut que c'est les contributeurs de départ et des gens qui travaillaient dans des systèmes bancaires ou des systèmes.
Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, attention, hein, c'est pas les contributeurs de départ. Hein.
C'est ça, mais c'est pour ça que
j'ai non plus pas creusé trop les times, les temps, etc. Moi, ce qui m'intéressait pas, c'est comment les gens viennent au fur et à mesure. Okay. Peut-être c'est très différent les 5 premières personnes de départ. Mais c'est assez facile de trouver 5 personnes pour faire un projet. C'est beaucoup plus dur de trouver 600 autres personnes pour contribuer.
T'as pas forcément de savoir si les motivations aussi elles évoluent au fil des gens qui sont à bout de bout, des motivations très différentes de gens qui sont là, de gens qui sont stressés.
Ouais. T'as la motivation maintenant quoi.
T'as raison.
Ouais, c'est ce qu'ils veulent dire en.
Ouais, non, parce que j'ai envoyé des mails à tous les gens, pas que les gens de maintenant, en guillemets.
Ouais, mais ils vont quand même te répondre la vie qu'ils ont actuellement.
Après. La vie qu'ils ont actuellement sur lequel ils sont passés.
Ouais,
hein. C'est ça. Alors ils ont leur propre vie, hein, c'est sûr. Question très basique, on peut coder autrement qu'en anglais? Si on n'a pas de connaissance en anglais.
Moi, sur Excel.
Moi, j'ai pas besoin de coder en français, je ne sais pas anglais.
Et il y a des language packs qu'on peut faire en chinois où tous les mots qui sont en anglais sont traduits déjà, comme le variables et tout ça. Donc, tu peux le faire
en français. Mais
quel langue? D'accord. Il y a plein de programmeurs russes ou chinois qui n'ont jamais appris un seul mot.
Même c'est plus.
Il y a des langages de programmation qui sont traduits. Donc le fort, il n'existe pas, c'est écrit en russe.
Mais là, c'est du C, c'est du C. C'est
ouais, même là, il y a des sortes d'interprétations.
Ah, tu mets par-dessus. Ouais.
Ah ouais, non, les gens, ils...
C'est quand même... Moi, je vois quand même plus de gens qui parlent anglais. Très peut-être qu'on les voit plus parce que...
Alors, le truc, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le RUNET. En Russie, le RUNET qui est l'internet en russe, et il y a des gens qui sortent pas de là, quoi.
Il y a quelque chose qui sort de ça. Ça vote que pour les Russes.
Il paraît qu'en Chine, ils en
parlent pas. Tous les Russes.
Ouais. C'est un concept social, c'est pas un concept technique, c'est un concept social, le RUNET. C'est que c'est un espace.
Oui, mais il a raison parce qu'il y a quand même des barrières par rapport à
la. Ah, c'est technique aussi parce que
c'est leur propos.
Ah, oui. Maintenant, il y a même des domaines qu'on ne peut pas taper en. Pas sérieux. Il y a des domaines en chinois maintenant aussi qu'on ne peut pas taper nous, donc on ne peut jamais juste aller même sur le site.
Si, par Google.
Ouais, par Google, en traduisant et en tapant en UTF-8, oui. En chinois, oui, on peut arriver dessus.
Non, par Google, tu cliques sur le lien, tu n'as rien besoin de taper.
S'il est listé sur Google,
s'il apparaît dans la recherche. Ouais.
La propriété principale du RUNET et du ChineseNet, c'est qu'ils ne sont pas listés sur Google.
Ouais.
C'est des réseaux un peu à part.
Pas listés sur Google. Par quel mécanisme c'est pas listé sur Google?
C'est que Google ne les rank pas. C'est qu'ils ne font rien pour être. Ils n'arrivent pas, ouais.
Il faut de l'anti.
Non, ils ne font rien contre. C'est juste que pour faire des choses pour aujourd'hui. Pour être tranquille pour que Google te
trouve. D'accord.
Si tu fais rien spécialement.
J'ai juste une question.
là, tu es parti sur Bitcoin. Il n'y a pas d'autres travaux sur la communauté Linux, sur les développeurs du noyau Linux. Ouais, mais ça existe depuis plus longtemps et tout. Il n'y a pas eu de travaux similaires au tien sur.
Alors, pas, ouais, moi, j'ai pris parce que c'était plus small, hein, ça me semblait plus petit. Ouais. Que Linux, comme Linux en particulier. Pas grand-chose. Mais c'est vraiment. Moi, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est qu'il y a vraiment un manque. Mais je veux dire, juste entre nous ici. C'est des professeurs d'université. Des professeurs d'université Genève, ils appellent en PDF.
Il y a des chefs d'entreprise aussi.
Moi, j'ai eu des cours qui ont compris 15 minutes de retard, où il n'avait pas une relation sur PDF. Genre, où il n'arrivait pas à passer en mode présentation sur son corps. Donc il y a vraiment un problème déjà de. Donc là, on va savoir quoi les
études. C'est la fracture numérique.
Mais en relation internationale, vous commencez à être trois fois dans l'internet qui passe en trois ans.
Et ton papier, il était perçu comment par le corps professoral?
Ah, ouais.
Pertinent comme question.
Mais quoi, ça parle? C'est quoi Bitcoin?
Non, c'est différent. Ah oui, moi j'avais très bien vu quand même, fallait pas faire une introduction pour le moment. J'étais là, une méga introduction pour. J'étais là pour rien capter. Mais bon, par contre, vous auriez dû faire, je sais pas, quelle stat différente. Ouais. Mais ouais, bon, c'est pas.
C'est quand on comprend pas une slide, on va chercher du code tantôt.
Il y avait que des dépôts. J'ai été voir le gars, c'est comment je peux améliorer ma mère. Parce qu'il y avait que des filtres de fort. Bah voilà, c'est un peu une discussion de sous, quoi. Malheureusement.
Est-ce qu'en sciences politiques, il y avait des travaux de ce type-là ou sur ce genre de réflexion?
Ouais, sur l'influence de l'influence. C'est ça que ça t'en fait sur.
Pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors peut-être qu'il y a une mine entière qui va bien faire ça. Mais toi, tu as pas vu.
Ouais, moi, je suis ça, c'est pas sur la tête.
Ah, merci. Parce que tu vas me dire, ah, mais j'ai une liste. Non, j'ai que ça. En fait, c'est gravissime, je pense.
Mais les sciences humaines sont très très loin, sont dépassées par ça. Mais peut-être à cause de la fascination technique en fait, qui obstrue la vision.
Ouais, c'est dramatique. Hein.
Ouais, c'est possible. Mais en fait, le problème, c'est que souvent dans ces choses, si on n'a pas compris qu'est-ce qui était impossible et qu'est-ce qui a rendu ça possible, on parle de, pardon, je vais utiliser le seul terme adéquat, du bullshit. De bullshit. On utilise souvent le terme blockchain, mais en fait, on raconte n'importe quoi parce que, en fait, on a toujours pas compris le petit élément qui a rendu tout ça possible. Et sans ça, malheureusement, construire des services dessus, discuter de politique dessus ou quoi que ce soit, c'est impossible parce qu'on comprend toujours pas c'était quoi le problème et qu'est-ce qu'on a réglé. Donc malheureusement, il faut un peu de technologie dans tout ça.
C'est quoi le petit élément dont tu parles?
Ah bah c'est le problème des généraux byzantins.
Oui.
Et la solution un peu bizarre de Bitcoin pour régler ce problème.
Ok.
Donc pour passer des messages
dont certains peuvent être faux.
Trustful dans un environnement.
Non mais là tu parles juste de Bitcoin. Ouais. Le problème dans les termes académiques, il y a sur toute la technologie. Hein.
Je disais par rapport à Bitcoin que c'est difficile à aborder sans aborder cet aspect technologique.
En fait, ils ne remarquent même pas qu'il y a par exemple une culture.
Mais c'est ce que j'allais dire. Au-delà de la techno, c'est comment aller toucher les gens. Tu demandes à un prof lambda comment tu vas interpeller la communauté Bitcoin, le gars, il sait pas où il nage, il sait pas comment aller toucher ces gens, il sait pas qui ils sont. Et c'est à des années-lumière.
Il faut des intermédiaires.
C'est pas valable aussi, parce qu'il faudrait avoir tous les travaux.
Ah, mais.
C'est sur les ingénieurs et
ça. Ah, mais bien sûr. Non, parce qu'il y a plein de travaux en sociologie qui ont été checkés, je crois, sur un temps.
Oui, mais là, tu n'as pas des grands sociologues physiques, tu vois. C'est un peu l'accès à
la sociologie. La sociologie de l'innovation, c'est assez récent. À 20 ans, 30 ans, il y a quelques points, c'est assez rare. Non, c'est vrai.
Pour dire que je pense que tu es dans une niche, c'est une très belle chose. Continue, fais un deuxième tour, fais un troisième tour même, Ethereum aussi, tout ça.
Ouais, c'est pas tout, il a ouvert.
Il faudra d'ici plus large.
Alors, je suis d'accord, ça fait une thèse là-dessus.
Il y aurait deux autres populations super intéressantes, c'est ceux qui créent les nouvelles monnaies, qui font des ICO, etc. Et puis, il y a les acheteurs. Les clients des exchanges.
Oui, les premiers, je connais leur but. J'ai toujours pas compris.
Les suivants, ouais.
Bah si.
Parce qu'on peut spéculer aussi, parce qu'il y a plein de... J'ai rencontré un monsieur qui veut faire un ICO parce qu'il veut sauver la Terre. Mais sauver la Terre en faisant une crypto-monnaie et puis en brûlant des déchets pour financer, pour alimenter le minage de crypto-monnaie. Donc je dis, mon frère, je sais que tes valeurs, elles sont là, mais voilà. Ta solution technologique, c'est rien du tout. Puis il y avait une équipe derrière de gens, ouais, des gens de Silicon Valley qui voulaient juste en sortir une fortune. Donc tu vois, je ne vais pas te manger le nom du truc parce qu'on enregistrait, mais je pense que le truc intéressant, c'est qu'il y a une grosse diversité d'acteurs. Je parle du type d'acteurs, soit gouvernemental, intergouvernemental, ONG. L'ONU l'utilisait récemment pour donner à manger aux gens au Liban, si je ne me trompe pas, tu vois. Donc ça, c'est des applications d'une technologie, mais dans des domaines... Il n'y a pas d'autres technologies que je connais, par le téléphone ou l'email, qui touchent l'informatique, qui touchent aussi le légal, qui touchent l'alimentation, qui touchent les vêtements qu'on met, tu vois. Donc,
Mais toutes les technologies,
elles
touchent l'ensemble des affaires.
Oui, mais
dans
un...
Pour dire, c'est pas n'importe quelle technologie. Hein.
On pense que, juste pour ajouter le point, qu'on peut toujours spéculer sur l'horizon. Donc les gens ont beaucoup spéculé que voilà, les développeurs utilisaient l'horizon ou autre. Et je pense que ce serait intéressant de faire cette même étude, mais sur la longévité. Donc quand un développeur vient commencer à moitié son parcours, à la fin de son parcours, donc les raisons pour lesquelles ils sont partis des communautés Bitcoin Core, il y en a, il pourrait écrire un bouquin dessus. Je pense qu'il y a même plusieurs chapitres dans le bouquin Master Bitcoin sur ça, quoi. Donc,
mais ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse, c'est pas un point, hein. C'est vraiment essayer de trouver des patterns dans la participation des projets techniques. Et même plus largement, comme tu disais, à la mise à disposition de services. Parce que je crois que c'est une manière, par exemple, Arène parlait de politique par l'action, c'est genre faire des choses, pas forcément concrètes, hein, mais faire des choses, c'est une manière, c'est de la politique. C'est la manière la plus forte de faire la politique. Et en plus, faire des choses qui permettent à d'autres personnes de faire des choses, c'est vraiment extrêmement puissant. Et du coup, c'est sous-étudié. Voilà, je pense que je resterai d'accord.
Pourquoi tu différencies en fait les raisons de développement de Bitcoin de raisons de développement de n'importe quel logiciel libre?
Je dirais que tu ne différencies pas.
Ok. Et pourquoi cette étude alors? Parce que tu as commencé en fait par ça, et je crois que c'est profondément lié à ça. Hein, c'est...
Ouais. Parce que la masse, déjà là, la masse c'est énorme. Hein. Maintenant, j'ai appris plusieurs gigas, la masse c'est bizarre. Mais si je prends la masse de GNU Linux, ben là c'est une thèse, hein, c'est un département. Ouais, c'est ça, vraiment ça. Quoi. Mais je pense qu'il faut aller voir ça, ouais. Peut-être Wikipédia aussi, il y a plein de projets. Il y a peut-être des projets auxquels on ne pense pas. Mais je nommais ça justement, on veut sortir un projet technique, web, assez simple, pour lui montrer qu'il y a d'autres types de services.
Je pense quand même que Bitcoin, c'est un logiciel open source dont, on va dire, l'application peut assez rapidement changer le quotidien de gens qui ne sont pas dans le domaine de la fonctionnalité. Ça sort du... Ça fait que je vais pouvoir...
Et je l'ai fait il y a 20 ans de Linux, qu'on prenait pour un débile, et aujourd'hui tout le monde l'a dans son téléphone, dans des trucs qu'il ne savait même pas qu'il y a Linux dedans. C'est le cas de probablement toutes ces technologies, en tout cas libres,
okay.
Je pense.
Mais tu vois, tout le monde a son téléphone, mais le petit appel phare qui était les gens vont avoir un peu de
pour être bien le nettoyer.
Ah ben voilà, ouais. Alors, quelle partie de ça est restée libre? Ouais, ça c'est une bonne question.
Et c'est pour moi, c'est là l'importance. De lier ces deux.
Je vois te critiquer sur le plan académique, parce que je fais la même chose. Enfin, je suis dans le même moule que toi, je suis aussi en relation avec ça en dernière année. Je pense que le problème, mais c'est intéressant que tu ne le mentionnes pas ou qu'il n'ait pas mentionné. Tu parles de donc, sciences politiques, relations internationales, domaine d'études, théorie, et là tu sors le constructivisme selon Wendt. Alors le constructivisme, c'est un courant, théorique qui est plus large que Wendt, et Wendt il applique aux relations internationales, et je pense qu'il s'intéresse aux États, enfin c'est pas défini les relations internationales comme domaine, mais quand même, ton travail ça pourrait être la sociologie. Qui s'intéresse au constructivisme. Mais c'est intéressant qu'il n'ait pas fait cette critique.
C'est pas pour c'est science politique, mais pas relations internationales.
Ouais, mais la femme a aussi peine. Il est trop limité, tu vois, pour aller ailleurs. Mais c'est expliqué, en fait.
Mais c'est sûrement vrai. Mais c'est sûrement difficile de rattacher ça aux relations internationales, la discipline comme elle est faite.
Bah non, parce que les effets techniques, en fait, ils se limitent pas aux frontières. C'est pas comme des politiques. La mise en place de services techniques, c'est pour ça que c'est vraiment des relations internationales pour moi.
Okay.
Elles ne se limitent pas aux frontières habituellement. Ouais, alors on est super surpris qu'on ne peut pas aller sur YouTube de la Chine. Mais c'est plutôt le défaut, c'est plutôt l'inverse. Dans ce sens-là, c'est bon.